jardinage, agriculture, arboriculture et désastre. Quelle joie le lendemain en se réveillant! Bouvard fuma une pipe et Pécuchet huma une prise, qu'ils déclarèrent la meilleure de leur existence. Puis ils se mirent à la croisée pour voir le paysage. On avait en face de soi les champs, à droite une grange avec le clocher de l'église et à gauche un rideau de peupliers. Deux allées principales formant la croix divisaient le jardin en quatre morceaux. Les légumes étaient compris dans les plates-bandes où se dressaient de place en place des cyprénas et des quenouilles. D'un côté, une tonnelle aboutissait à un vigneau, de l'autre, un mur soutenait les espaliers et une claire-voie, dans le fond, donnait sur la campagne. Il y avait au-delà du mur un verger, et après la charmille un bosquet, derrière la claire-voie un petit chemin. Il contemplait cet ensemble quand un homme, à chevelure grisonnante et vêtu d'un paletot noir, longea le sentier en raclant avec sa canne tous les barreaux de la claire-voie. La vieille servante leur apprit que c'était M. Vaucorbeil, un docteur fameux dans l'arrondissement. Les autres notables étaient le comte de Faverges, autrefois député, et dont on citait les vacheries, le maire M. Fourreau, qui vendait du bois, du plâtre, toute espèce de choses, Monsieur Marescot, le notaire, l'abbé Geoffroy et Madame Veuve Bordin, vivant de son revenu. Quant à elle, on l'appelait la Germaine, à cause de feu Germain, son mari. Elle faisait des journées, mais aurait voulu passer au service de ces messieurs. Ils l'acceptèrent et partirent pour leur ferme, située à 1 kilomètre de distance. Quand ils entrèrent dans la cour, le fermier, maître Gouy, vociférait contre un garçon et la fermière, sur un escabeau, serrait entre ses jambes une dinde qu'elle empâtait avec des gobes de farine. L'homme avait le front bas, le nez fin, le regard en dessous et les épaules robustes. La femme était très blonde, avec les pommettes tachetées de son, et cet air de simplicité que l'on voit au manant sur le vitrail des églises. Dans la cuisine, des bottes de chanvre étaient suspendues au plafond. Trois vieux fusils s'échelonnaient sur la haute cheminée. Un dressoir chargé de faïences à fleurs occupait le milieu de la muraille et les carreaux en verre de bouteille jetaient sur les ustensiles de fer blanc et de cuivre rouge une lumière blafarde. Les deux Parisiens désiraient faire leur inspection, n'ayant vu la propriété qu'une fois, sommairement. Maître Gouy et son épouse les escortèrent, et la kyrielle des plaintes commença. Tous les bâtiments, depuis la charreterie jusqu'à la bouillerie, avaient besoin de réparation. Il aurait fallu construire une succursale pour les fromages, mettre aux barrières des ferrements neufs, relever les hauts bords, creuser la mare et replanter considérablement de pommiers dans les trois cours. Ensuite, on visita les cultures. Maître Gouy les déprécia. Elles mangeaient trop de fumier. Les charrois étaient dispendieux. Impossible d'extraire les cailloux, la mauvaise herbe empoisonnait les prairies. Et ce dénigrement de sa terre atténua le plaisir que Bouvard sentait à marcher dessus. Ils s'en revinrent par la cavée sous une avenue de hêtres. La maison montrait, de ce côté-là, sa cour d'honneur et sa façade. Elle était peinte en blanc avec des rechampis de couleur jaune. Le hangar et le cellier, le fournil et le bûcher faisaient en retour deux ailes plus basses. La cuisine communiquait avec une petite salle. On rencontrait ensuite le vestibule, une deuxième salle plus grande et le salon. Les quatre chambres, au premier, s'ouvraient sur le corridor qui regardait la cour. Pécuchet en prit une pour ses collections. La dernière fut destinée à la bibliothèque et, comme ils ouvraient les armoires, ils trouvèrent d'autres bouquins mais n'eurent pas la fantaisie d'en lire les titres. Le plus pressé, c'était le jardin. Bouvard, en passant près de la charbille, découvrit sous les branches une dame en plâtre. Avec deux doigts, elle écartait sa jupe, les genoux pliés, la tête sur l'épaule, comme craignant d'être surprise. Oh, pardon, ne vous gênez pas! Et cette plaisanterie les amusa tellement que 20 fois par jour, pendant plus de 3 semaines, ils la répétèrent. Cependant, les bourgeois de Chavignol désiraient les connaître. On venait les observer par la claire-voie. Ils embouchèrent les ouvertures avec des planches. La population fut contrariée. Pour se garantir du soleil, Bouvard portait sur la tête un mouchoir noué en turban, Pécuchet sa casquette. Et il avait un grand tablier avec une poche par-devant, dans laquelle ballottait un sécateur, son foulard et sa tabatière. Les bras nus et côte à côte, il labourait, sarclait, émondait, s'imposait des tâches, mangeait le plus vite possible, mais allait prendre le café sur le Vignaud pour jouir du point de vue. S'il rencontrait un limaçon, il s'approchait de lui et l'écrasait en faisant une grimace du coin de la bouche comme pour casser une noix. Ils ne sortaient pas sans leur louchet et coupaient en deux les vers blancs d'une telle force que le fer de l'outil s'en enfonçait de 3 pouces. Pour se délivrer des chenilles, ils battaient les arbres à grands coups de gaule, furieusement. Bouvard planta une pivoine au milieu du gazon et des pommes d'amour qui devaient retomber comme des lustres sous l'arceau de la tonnelle. Pécuchet fit creuser devant la cuisine un large trou et le disposa en 3 compartiments où il fabriquerait des composts qui feraient pousser un tas de choses, dont les détritus amèneraient d'autres récoltes, procurant d'autres engrais, tout cela indéfiniment. Et il rêvait au bord de la fosse, apercevant dans l'avenir des montagnes de fruits, des débordements de fleurs, des avalanches de légumes. Mais le fumier du cheval, si utile pour les couches, lui manquait. Les cultivateurs n'en vendaient pas, les aubergistes en refusèrent. Enfin, après beaucoup de recherches, malgré les instances de Bouvard et abjurant toute pudeur, il prit le parti d'aller lui-même au crottin. C'est au milieu de cette occupation que Madame Bordin, un jour, l'accosta sur la grande route. Quand elle l'eut complimenté, elle s'informa de son ami. Les yeux noirs de cette personne, très brillants bien que petits, ses hautes couleurs, son aplomb, elle avait même un peu de moustache, intimidèrent Pécuchet. Il répondit brièvement et tourna le dos. Impolitesse que blâma Bouvard. Puis les mauvais jours survinrent, la neige, les grands froids. Ils s'installèrent dans la cuisine et faisaient du treillage, ou bien parcouraient les chambres, causaient au coin du feu, regardaient la pluie tomber. Dès la mi-carême, ils guettèrent le printemps et répétaient chaque matin « Tout part !» Mais la saison fut tardive et ils consolaient leur impatience en disant « Tout va partir !» Ils virent enfin lever les petits pois, les asperges donnèrent beaucoup, la vigne promettait. Puisqu'ils s'entendaient au jardinage, ils devaient réussir dans l'agriculture. Et l'ambition les prit de cultiver leur ferme. Avec du bon sens et de l'étude, ils s'en tireraient, sans aucun doute. D'abord, il fallait voir comment on opérait chez les autres. Et ils rédigèrent une lettre où ils demandaient à Monsieur de Faverges l'honneur de visiter son exploitation. Le comte leur donna tout de suite un rendez-vous. Après 1 heure de marche, ils arrivèrent sur le versant d'un coteau qui domine la vallée de l'Orne. La rivière coulait au fond avec des sinuosités. Des blocs de grès rouge s'y dressaient de place en place et des roches plus grandes formaient au loin comme une falaise surplombant la campagne couverte de blé mûr. En face, sur l'autre colline, la verdure était si abondante qu'elle cachait les maisons. Des arbres la divisaient en carrés inégaux, se marquant au milieu de l'herbe par des lignes plus sombres. L'ensemble du domaine apparut tout à coup. Des toits de tuiles indiquaient la ferme. Le château, à façade blanche, se trouvait sur la droite avec un bois au-delà et une pelouse descendait jusqu'à la rivière où des platanes alignés reflétaient leur ombre. Les deux amis entrèrent dans une luzerne qu'on fanait. Des femmes portant des chapeaux de paille, des marmottes d'indienne ou des visières de papier soulevait avec des râteaux le foin laissé par terre, et à l'autre bout de la plaine, auprès des meules, on jetait les bottes vivement dans une longue charrette attelée de 3 chevaux. Monsieur le comte s'avança, suivi de son régisseur. Il avait un costume de basin, la taille raide et les favoris en côtelettes, l'air à la fois d'un magistrat et d'un dandy. Les traits de sa figure, même quand il parlait, ne remuaient pas. Les premières politesses échangées, il exposa son système relativement au fourrage. On retournait les andins sans les éparpiller, les meules devaient être coniques et les bottes faites immédiatement sur place, puis entassées par dizaines. Quant au râteleur anglais, la prairie était trop inégale pour un pareil instrument. Une petite fille, les pieds nus dans des savates, et dont le corps se montrait par les déchirures de sa robe, donnait à boire aux femmes en versant du cidre d'un broc qu'elle appuyait contre sa hanche. Le comte demanda d'où venait cet enfant. On n'en savait rien. Les faneuses l'avaient recueilli pour les servir pendant la moisson. Il haussa les épaules et, tout en s'éloignant, proféra quelques plaintes sur l'immoralité de nos campagnes. Bouvard fit l'éloge de la luzerne. Elle était assez bonne, en effet, malgré les ravages de la cuscute. Les futurs agronomes ouvrirent les yeux au mot « cuscute ». Vu le nombre de ces bestiaux, ils s'appliquaient aux prairies artificielles. C'était d'ailleurs un bon précédent pour les autres récoltes, ce qui n'a pas toujours lieu avec les racines fourragères. Cela, du moins, me paraît incontestable. Bouvard et Pécuchet reprirent ensemble « Oh, incontestable !» Ils étaient sur la limite d'un champ tout plat, soigneusement ameubli. Un cheval que l'on conduisait à la main traînait un large coffre monté sur 3 roues. 7 coutres, disposées en bas, ouvraient parallèlement des raies fines dans lesquelles le grain tombait par des tuyaux descendant jusqu'au sol. « Ici, dit le comte, je sème les turnips. Le turnip est la base de ma culture quadriennale. » Et il entamait la démonstration du semoir. Mais un domestique vint le chercher, on avait besoin de lui au château. Son régisseur le remplaça, homme à figure chafouine et de façons obséquieuses. Il conduisit ces messieurs vers un autre champ, où 14 moissonneurs, la poitrine nue et les jambes écartées, fauchaient des seigles. Les fers sifflaient dans la paille qui se versait à droite. Chacun décrivait devant soi un large demi-cercle, et tous sur la même ligne, ils avançaient en même temps. Les deux Parisiens admirèrent leurs bras. Ah, ils se sentaient pris d'une vénération presque religieuse pour l'opulence de la terre. Ils longèrent ensuite plusieurs pièces en labour. Le crépuscule tombait, des corneilles s'abattaient dans les sillons. Puis ils rencontrèrent le troupeau. Les moutons çà et là pâturaient et on entendait leur continuel broutement. Le berger, assis sur un tronc d'arbre, tricotait un bas de laine, ayant son chien près de lui. Le régisseur aida Bouvard et Pécuchet à franchir un échalier et ils traversèrent 2 masures où des vaches ruminaient sous les pommiers. Tous les bâtiments de la ferme étaient contigus et occupaient les 3 côtés de la cour. Le travail s'y faisait à la mécanique, au moyen d'une turbine, utilisant un ruisseau qu'on avait exprès détourné. Des bandelettes de cuir allaient d'un toit dans l'autre, et au milieu du fumier, une pompe de fer manœuvrait. Le régisseur fit observer dans les bergeries de petites ouvertures à ras du sol, et dans les cases aux cochons, des portes ingénieuses pouvant elles-mêmes se fermer. La grange était voûtée comme une cathédrale avec des arceaux de briques reposant sur des murs de pierre. Pour divertir les messieurs, une servante jeta devant les poules des poignées d'avoine. L'arbre du pressoir leur parut gigantesque et ils montèrent dans le pigeonnier. La laiterie spécialement les émerveilla. Des robinets dans les coins fournissaient assez d'eau pour inonder les dalles. Et en entrant, une fraîcheur vous surprenait. Des jarres brunes, alignées sur des claires-voies, était pleine de lait jusqu'au bord. Des terrines moins profondes contenaient de la crème. Les pains de beurre se suivaient, pareils au tronçon d'une colonne de cuivre, et de la mousse débordait les seaux de fer blanc qu'on venait de poser par terre. Mais le bijou de la ferme, c'était la bouverie. Des barreaux de bois scellés, perpendiculairement dans toute sa longueur, la divisaient en deux sections, la première pour le bétail, la seconde pour le service. On y voyait à peine toutes les meurtrières étant closes. Les bœufs mangeaient, attachés à des chaînettes, et leur corps exhalait une chaleur que le plafond bas rabattait. Mais quelqu'un donna du jour, un filet d'eau tout à coup se répandit dans la rigole qui bordait les râteliers. Des mugissements s'élevèrent, les cornes faisaient comme un cliquetis de bâton. Tous les bœufs avancèrent leurs mufles entre les barreaux et buvaient lentement. Les grands attelages entrèrent dans la cour et des poulains hennirent. Au rez-de-chaussée, deux ou trois lanternes s'allumèrent puis disparurent. Les gens de travail passaient en traînant leurs sabots sur les cailloux et la cloche pour le souper tinta. Les deux visiteurs s'en allèrent. Tout ce qu'ils avaient vu les enchantait. Leur décision fut prise. Dès le soir, ils tirèrent de leur bibliothèque les quatre volumes de la Maison rustique, se firent expédier le cours de Gasparin et s'abonnèrent à un journal d'agriculture. Pour se rendre aux foires plus commodément, ils achetèrent une carriole que Bouvard conduisait. Habillé d'une blouse bleue avec un chapeau à large bord, des guêtres jusqu'aux genoux et un bâton de maquignon à la main, il rôdait autour des bestiaux, questionnait les laboureurs et ne manquait pas d'assister à tous les comices agricoles. Bientôt, ils fatiguèrent Maître Gouy de leurs conseils, déplorant principalement son système de jachère. Mais le fermier tenait à sa routine. Il demanda la remise d'un terme sous prétexte de la grêle. Quant aux redevances, il n'en fournit aucune. Devant les réclamations les plus justes, sa femme poussait des cris. Enfin, Bouvard déclara son intention de ne plus renouveler le bail. Dès lors, Maître Gouy épargna les fumures, laissa pousser les mauvaises herbes, ruina le fond, et il s'en alla d'un air farouche qui indiquait des plans de vengeance. Bouvard avait pensé que 20 000 francs, c'est-à-dire plus de 4 fois le prix du fermage, suffirait au début. Son notaire de Paris les envoya. Leur exploitation comprenait 15 hectares en cours et prairies, 23 en terres arables et 5 en friches situées sur un monticule couvert de cailloux et qu'on appelait la butte. Ils se procurèrent tous les instruments indispensables, 4 chevaux, 12 vaches, 6 porcs, 160 moutons et, comme personnel, 2 charretiers, 2 femmes, 1 valet, 1 berger et de plus un gros chien. Pour avoir tout de suite de l'argent, ils vendirent leur fourrage. On les paya chez eux. L'or des Napoléons compté sur le coffre à l'avoine leur parut plus reluisant qu'un autre extraordinaire et meilleur. Au mois de novembre, ils brassèrent du cidre. C'était Bouvard qui fouettait le cheval et Pécuchet, monté dans l'auge, retournait le mar avec une pelle. Il haletait en serrant la vis, pchait dans la couve, surveillait les bondes, portait de lourds sabots, s'amusait énormément. Partant de ce principe qu'on ne saurait avoir trop de blé, ils supprimèrent la moitié environ de leurs prairies artificielles, et comme ils n'avaient pas d'engrais, ils se servirent de tourteaux qu'ils enterrèrent sans les concasser, si bien que le rendement fut pitoyable. L'année suivante, ils firent les semailles très drues. Des orages survinrent, les épis versèrent. Néanmoins, ils s'acharnaient au froment, et ils entreprirent d'épierrer la butte. Un banneau emportait les cailloux. Tout le long de l'année, du matin jusqu'au soir, par la pluie, par le soleil, On voyait l'éternel Banneau avec le même homme et le même cheval gravir, descendre et remonter la petite colline. Quelquefois, Bouvard marchait derrière, faisant des haltes à mi-côte pour s'éponger le front. Ne se fiant à personne, ils traitaient eux-mêmes les animaux, leur administraient des purgations, des clistères. De graves désordres eurent lieu. La fille de basse-cour devint enceinte. Ils prirent des gens mariés. Les enfants pullulèrent, les cousins, les cousines, les oncles, les belles-sœurs. Une horde vivait à leurs dépens. Et ils résolurent de coucher dans la ferme à tour de rôle. Mais le soir, ils étaient tristes. La malpropreté de la chambre les offusquait. Germaine, qui apportait les repas, grommelait à chaque voyage. On les dupait de toutes les façons. Les batteurs en grange fourraient du blé dans leur cruche à boire. Pécuchet en surprit un et s'écria en le poussant dehors par les épaules. « Misérable, tu es la honte du village qui t'a vu naître !» Sa personne n'inspirait aucun respect. D'ailleurs, il avait des remords à l'encontre du jardin. Tout son temps ne serait pas de trop pour le tenir en bon état. Bouvard s'occuperait de la ferme. Ils en délibérèrent et cet arrangement fut décidé. Le premier point était d'avoir de bonnes couches. Pécuchet en fit construire une en briques. Il peignit lui-même les châssis et, redoutant les coups de soleil, barbouilla de craie toutes les cloches. Il eut la précaution pour les boutures d'enlever les têtes avec les feuilles. Ensuite, il s'appliqua au marquetage. Il essaya plusieurs sortes de greffes. Greffes en flûte, en couronne, en écusson, greffes herbacées, greffes anglaises. Ah, avec quel soin il ajustait les deux libères, comme il serrait les ligatures, quel amas d'onguents pour les recouvrir. Deux fois par jour, il prenait son arrosoir et le balançait sur les plantes, comme s'il les eût encensées. À mesure qu'elles verdissaient sous l'eau qui tombait en pluie fine, il lui semblait se désaltérer et renaître avec elle. Puis, cédant à une ivresse, il arrachait la pomme de l'arrosoir et versait à plein goulot, copieusement. Au bout de la charmille, près de la dame en plâtre, s'élevait une manière de cahute faite en rondin. Pécuchet y enfermait ses instruments, et il passait là des heures délicieuses, à éplucher les graines, à écrire des étiquettes, à mettre en ordre ses petits pots. Pour se reposer, il s'asseyait devant la porte sur une caisse et alors projetait des embellissements. Il avait créé au bas du perron deux corbeilles de géranium. Entre les cyprès et les quenouilles, il planta des tournesols. Et comme les plates-bandes étaient couvertes de boutons d'or et toutes les allées de sable neuf, le jardin éblouissait par une abondance de couleurs jaunes. Mais la couche fourmilla de larves, et malgré les réchauds de feuilles mortes sous les châssis peints et sous les cloches barbouillées, il ne poussa que des végétations rachitiques. Les boutures ne reprirent pas, les greffes se décollèrent, la sève des marcottes s'arrêta, les arbres avaient le blanc dans leurs racines, les semis furent une désolation. Le vent s'amusait à jeter bas les rames des haricots. L'abondance de la gadoue nuisait aux fraisiers, le défaut de pinçage aux tomates. Il manqua les brocolis, les aubergines, les navets et du cresson de fontaine qu'il avait voulu élever dans un baquet. Après le dégel, tous les artichauts étaient perdus. Les choux le consolèrent. Un surtout lui donna des espérances. Il s'épanouissait, montait, finit par être prodigieux et absolument incomestible. N'importe... Pécuchet fut content de posséder un monstre. Alors, il tenta ce qui lui semblait être le summum de l'art, l'élève du melon. Il sema des graines de plusieurs variétés dans des assiettes remplies de terreau qu'il enfouit dans sa couche. Puis il dressa une autre couche et, quand elle eut jeté son feu, repiqua les plants les plus beaux avec des cloches par-dessus. Il fit toutes les tailles, suivant les préceptes du bon jardinier, respecta les fleurs, laissa se nouer les fruits, en choisit un sur chaque bras, supprima les autres, et dès qu'ils eurent atteint la grosseur d'une noix, il glissa sous leur écorce une planchette pour les empêcher de pourrir au contact du crottin. Il les bassinait, les aérait, enlevait avec son mouchoir la brume des cloches, et si des nuages paraissaient, il apportait vivement des paillassons. La nuit, il n'endormait pas. Plusieurs fois même, il se releva, et, pieds nus dans ses bottes, en chemise grelottant, il traversait tout le jardin pour aller mettre sur les bâches la couverture de son lit. Les cantaloups mûrirent. Au premier, Bouvard fit la grimace. Le second ne fut pas meilleur, le troisième non plus. Pécuchet trouvait pour chacun une excuse nouvelle, jusqu'au dernier qu'il jeta par la fenêtre, déclarant n'y rien comprendre. En effet, comme il avait cultivé, les unes près des autres, des espèces différentes, les sucrins s'étaient confondus avec les maraîchers, le gros Portugal avec le grand Mongol, et le voisinage des pommes d'amour complétant l'anarchie, il en était résulté d'abominables mulets qui avaient le goût de citrouille. Alors Pécuchet se tourna vers les fleurs. Il écrivit à Dumouchel pour avoir des arbustes avec des graines, acheta une provision de terre de bruyère et se mit à l'œuvre résolument. Mais il planta des passiflores à l'ombre, des pensées au soleil, couvrit de fumier les jacinthes, arrosa les lys après leur floraison, détruisit les rhododendrons par des excès d'abattage, stimula les fuchsias avec de la colle-forte et rôtit un grenadier en l'exposant au feu dans la cuisine. Aux approches du froid, il abrita les églantiers sous des dômes de papier fort, enduits de chandelles, cela faisait comme des pains de sucre, tenus en l'air par des bâtons. Les tuteurs des dahlias étaient gigantesques et on apercevait, entre ces lignes droites, les rameaux tortueux d'un sophora japonica qui demeurait immuable, sans dépérir ni sans pousser. Cependant, puisque les arbres les plus rares prospèrent dans les jardins de la capitale, ils devraient réussir à Chavignoles. Et Pécuchet se procura le lilas des Indes, la rose de Chine et l'eucalyptus, alors dans la primeur de sa réputation. Toutes les expériences ratèrent. Il était chaque fois fort étonné. Bouvard, comme lui, rencontrait des obstacles. Ils se consultaient mutuellement, ouvraient un livre, passaient à un autre, puis ne savaient que résoudre devant la divergence des opinions. Ainsi, pour la Marne, Puvis la recommande et le manuel Roret la combat. Quant au plâtre, malgré l'exemple de Franklin, Riffel et M. Rigaud n'en paraissent pas enthousiasmés. Les jachères, selon Bouvard, étaient un préjugé gothique. Cependant, Leclerc note les cas où elles sont presque indispensables. Gasparin cite un Lyonnais qui, pendant un demi-siècle, a cultivé des céréales sur le même champ. Cela renverse la théorie des assolements. Tulle exalte les labours au préjudice des engrais, et voilà le major Binson qui supprime les engrais avec les labours. Pour se connaître aux signes du temps, ils étudièrent les nuages, d'après la classification de Luke Howard. Ils contemplaient ce qui s'allonge comme des crinières, ce qui ressemble à des îles, ce qu'on prendrait pour des montagnes de neige, tâchant de distinguer les nimbus des cirrus, les stratus des cumulus. Les formes changeaient avant qu'ils eussent trouvé les noms. Le baromètre les trompa. Le thermomètre n'apprenait rien. Et ils recoururent à l'expédient imaginé sous Louis XV par un prêtre de Touraine. Une sangsue dans un bocal devait monter en cas de pluie, se tenir au fond par beau fixe, s'agiter aux menaces de la tempête. Mais l'atmosphère presque toujours contredit la censure. Ils en mirent trois autres avec celle-là. Toutes les quatre se comportèrent différemment. Après force méditation, Bouvard reconnut qu'il s'était trompé. Son domaine exigeait la grande culture, le système intensif, et il aventura ce qui lui restait de capitaux disponibles, 30 000 francs. Excité par Pécuchet, il eut le délire de l'engrais. Dans la fosse au compost furent entassés des branchages, du sang, des boyaux, des plumes, enfin tout ce qu'il pouvait découvrir. Il employa la liqueur belge, le lisier suisse, la lessive, des haronsors, du varech, des chiffons, fit venir du guano, tâcha d'en fabriquer, et poussant jusqu'à bout ses principes, ne tolérait pas qu'on perdît l'urine. Il supprima les lieux d'aisance. On apportait dans sa cour des cadavres d'animaux dont il fumait ses terres. Leur charogne dépecée parsemait la campagne. Bouvard souriait au milieu de cette infection. Une pompe installée dans un tombereau crachait du purin sur les récoltes. À ceux qui avaient l'air dégoûtés, il disait « Mais c'est de l'or, c'est de l'or !» Et il regrettait de n'avoir pas encore plus de fumier. Ah, heureux les pays où l'on trouve des grottes naturelles pleines d'excréments d'oiseaux. Le colza fut chétif, l'avoine médiocre et le blé se vendit fort mal à cause de son odeur. Une chose étrange, c'est que la butte, enfin épierrée, donnait moins qu'autrefois. Il crut bon de renouveler son matériel. Il acheta un scarificateur Guillaume, un extirpateur Valcourt, un semoir anglais et le grand arrière de Mathieu de Dombasle. Le charretier le dénigra. « Apprends à t'en servir. Eh bien, montrez-moi. » Il essayait de montrer, se trompait, et les paysans ricanaient. Jamais il ne put les astreindre au commandement de la cloche. Sans cesse, il criait derrière eux, courait d'un endroit à l'autre, notait ses observations sur un calepin, donnait des rendez-vous, n'y pensait plus, et sa tête bouillonnait d'idées industrielles. Il se promettait de cultiver le pavot en vue de l'opium, et surtout l'astragale, qu'il vendrait sous le nom de café des familles. Afin d'engraisser plus vite ses bœufs, il les saignait tous les 15 jours. Il ne tua aucun de ses cochons et les gorgeait d'avoine salée. Bientôt la porcherie fut trop étroite. Ils embarrassaient la cour, défonçaient les clôtures, mordaient le monde. Durant les grandes chaleurs, 25 moutons se mirent à tourner et peu de temps après, crevèrent. La même semaine, 3 bœufs expiraient, conséquence des phlébotomies de Bouvard. Il imagina, pour détruire les mantes, d'enfermer des poules dans une cage à roulettes que 2 hommes poussaient derrière la charrue, ce qui ne manqua point de leur briser les pattes. Il fabriqua de la bière avec des feuilles de petits chênes et la donna au moissonneur en guise de cidre. Des maux d'entrailles se déclarèrent, les enfants pleuraient, les femmes geignaient, les hommes étaient furieux, ils menaçaient tous de partir, et Bouvard leur céda. Cependant, pour les convaincre de l'innocuité de son breuvage, il en observa devant eux plusieurs bouteilles, se sentit gêné, mais cacha ses douleurs sous un air d'enjouement. Il fit même transporter la mixture chez lui. Il en buvait le soir avec Pécuchet, et tous deux s'efforçaient de la trouver bonne. D'ailleurs, il ne fallait pas qu'elle fût perdue. Les coliques de Bouvard devenant trop fortes, Germaine alla chercher le docteur. C'était un homme sérieux, à front convexe, et qui commença par effrayer son malade. La colérine de monsieur devait tenir à cette bière dont on parlait dans le pays. Il voulut en savoir la composition et la blâma en termes scientifiques avec des haussements d'épaules. Pécuchet, qui avait fourni la recette, fut mortifié. En dépit des cholages pernicieux, des binages épargnés et des échardonnages intempestifs, Bouvard, l'année suivante, avait devant lui une belle récolte de froment. Il imagina de le dessécher par la fermentation genre hollandais, système Klappmeyer, c'est-à-dire qu'il le fit abattre d'un seul coup et tasser en meules qui seraient démolies dès que le gaz s'en échapperait, puis exposées au grand air. Après quoi Bouvard se retira sans la moindre inquiétude. Le lendemain, pendant qu'ils dînaient, ils entendirent sous la hêtraie le battement d'un tambour. Germaine sortit pour voir ce qu'il y avait, mais l'homme était déjà loin. Presque aussitôt, la cloche de l'église tinta violemment. Une angoisse saisit Bouvard et Pécuchet. Ils se levèrent et, impatients d'être renseignés, s'avancèrent tête nue du côté de Chavignoles. Une vieille femme passa, elle ne savait rien. Ils arrêtèrent un petit garçon qui répondit « Je crois que c'est le feu !» Et le tambour continuait à battre, la cloche tintait plus fort. Enfin, ils atteignirent les premières maisons du village. L'épicier leur cria de loin « Le feu est chez vous !» Pécuchet prit le pas de gymnastique et il disait à Bouvard, courant du même train à son côté, « une, deux, en mesure, comme les chasseurs de Vincennes. » La route qu'ils suivaient montait toujours, le terrain en pente leur cachait l'horizon. Ils arrivèrent en haut près de la butte et d'un seul coup d'œil, le désastre leur apparut. Toutes les meules, çà et là, flambaient comme des volcans au milieu de la plaine dénudée dans le calme du soir. Il y avait, autour de la plus grande, 300 personnes, peut-être, et sous les ordres de M. Fourreau, le maire en écharpe tricolore, des gars avec des perches et des crocs tiraient la paille du sommet afin de préserver le reste. Bouvard, dans son empressement, faillit renverser Madame Bordin qui se trouvait là. Puis, apercevant un de ses valets, il l'accabla d'injures pour ne l'avoir pas averti. Le valet, au contraire, par excès de zèle, avait d'abord couru à la maison, à l'église, puis chez monsieur, et était revenu par l'autre route. Bouvard perdait la tête. Ses domestiques l'entouraient, parlant à la fois, et il défendait d'abattre les meules, suppliait qu'on le secourût, exigeait de l'eau, réclamait des pompiers. « Est-ce que nous en avons ?» s'écria le maire. « C'est de votre faute, reprit Bouvard. » Il s'emportait, proféra des injures inconvenantes, et tous admirèrent la patience de M. Fourreau, qui était brutal cependant, comme l'indiquaient ses grosses lèvres et sa mâchoire de bouledogue. La chaleur des meules devint si forte qu'on ne pouvait plus en approcher. Sous les flammes dévorantes, la paille se tordait avec des crépitations, les grains de blé vous saignaient la figure comme des grains de plomb. Puis la meule s'écroulait par terre en un large brasier d'où s'envolaient des étincelles, et des moires ondulaient sur cette masse rouge qui offrait, dans les alternances de sa couleur, des parties roses comme du vermillon et d'autres brunes comme du sang caillé. La nuit était venue, le vent soufflait, des tourbillons de fumée enveloppaient la foule, une flamèche de temps à autre passait sur le ciel noir. Bouvard contemplait l'incendie en pleurant doucement. Ses yeux disparaissaient sous leurs paupières gonflées, et il avait tout le visage comme élargi par la douleur. Madame Bordin, en jouant avec les franges de son châle vert, l'appelait « pauvre monsieur », tâchait de le consoler, puisqu'on n'y pouvait rien. Il devait se faire une raison. Pécuchet ne pleurait pas, très pâle ou plutôt livide. La bouche ouverte et les cheveux collés par la sueur froide, il se tenait à l'écart dans ses réflexions. Mais le curé, survenu tout à coup, murmura d'une voix câline « Ah, oh, quel malheur, véritablement, c'est bien fâcheux. Soyez sûr que je participe. » Les autres n'affectaient aucune tristesse. Ils causaient en souriant, la main étendue devant les flammes. Un vieux ramassa des brins qui brûlaient pour allumer sa pipe. Des enfants se mirent à danser. Un polisson s'écria même que c'était bien amusant. « Oui, il est beau, l'amusement, » reprit Pécuchet, qui venait de l'entendre. Le feu diminua, les tasses abaissèrent, et une heure après, Il ne restait plus que des cendres, faisant sur la plaine des marques rondes et noires. Alors on se retira. Madame Bordin et l'abbé Jouffroir conduisirent messieurs Bouvard et Pécuchet jusqu'à leur domicile. Pendant la route, la veuve adressa à son voisin des reproches fort aimables sur sa sauvagerie, et l'ecclésiastique exprima toute sa surprise de n'avoir pu connaître jusqu'à présent un de ses paroissiens aussi distingués. Seul à seul, ils cherchèrent la cause de l'incendie, et, au lieu de reconnaître avec tout le monde que la paille humide s'était enflammée spontanément, ils soupçonnèrent une vengeance. Elle venait sans doute de Maître Gouy, ou peut-être du taupier. 6 mois auparavant, Bouvard avait refusé ses services et même soutenu dans un cercle d'auditeurs que son industrie étant funeste, le gouvernement la devrait interdire. L'homme, depuis ce temps-là, rôdait aux environs. Il portait sa barbe entière et leur semblait effrayant, surtout le soir, quand il apparaissait au bord des cours en secouant sa longue perche, garnie de taupes suspendues. Le dommage était considérable. Et pour se reconnaître dans leur situation, Pécuchet, pendant 8 jours, travaillait à les registres de Bouvard qui lui parurent un véritable labyrinthe. Après avoir collationné le journal, la correspondance et le grand livre couvert de notes au crayon et de renvois, il découvrit la vérité. Pas de marchandises à vendre, aucun effet à recevoir et en caisse 0. Le capital se marquait par un déficit de 33 000 francs. Bouvard n'en voulut rien croire. Et plus de 20 fois, ils recommencèrent les calculs. Ils arrivaient toujours à la même conclusion. Encore 2 ans d'une agronomie pareille et leur fortune y passait. Le seul remède était de vendre. Au moins, fallait-il consulter un notaire. La démarche était trop pénible. Pécuchet s'en chargea. D'après l'opinion de M. Marescot, mieux valait ne point faire d'affiche. Il parlerait de la ferme à des clients sérieux et laisserait venir les propositions. « Très bien, dit Bouvard, on a du temps devant soi. Il allait prendre un fermier, ensuite on verrait. Nous ne serons pas plus malheureux qu'autrefois. Bon, nous voilà forcés à des économies. » Elle contrariait Pécuchet à cause du jardinage. Et quelques jours après, il dit « Nous devrions nous livrer exclusivement à l'arboriculture, non pour le plaisir, mais comme spéculation. Une poire qui revient à 3 sols et quelquefois vendue dans la capitale jusqu'à des 5 et 6 francs. Des jardiniers se font avec les abricots 25 000 livres de rente. » À Saint-Pétersbourg, pendant l'hiver, on paie le raisin 1 napoléon la grappe. C'est une belle industrie, tu en conviendras. Et qu'est-ce que ça coûte? Des soins, du fumier, et le repassage d'une serpette. Il monta tellement l'imagination de Bouvard que tout de suite ils cherchèrent dans leurs livres une nomenclature de plants à acheter, et ayant choisi des noms qui leur paraissaient merveilleux, ils s'adressèrent à un pépiniériste de falaise, lequel s'empressa de leur fournir 3 centiges dont ils ne trouvaient pas le placement. Ils avaient fait venir un serrurier pour les tuteurs, un quincailler pour les raidisseurs, un charpentier pour les supports. Les formes des arbres étaient d'avance dessinées. Des morceaux de latte sur le mur figuraient des candélabres. 2 poteaux à chaque bout des plates-bandes guindaient horizontalement des fils de fer et dans le verger, des cerceaux indiquaient la structure des vases, des baguettes en cône, celles des pyramides, si bien qu'en arrivant chez eux, on croyait voir les pièces de quelque machine inconnue ou la carcasse d'un feu d'artifice. Les trous étant creusés, ils coupèrent l'extrémité de toutes les racines, bonnes ou mauvaises, et les enfouirent dans un compost. 6 mois après, les plants étaient morts. Nouvelle commande aux pépiniéristes et plantation nouvelle dans des trous encore plus profonds. Mais la pluie détrempant le sol, Les grèves d'elles-mêmes s'enterrèrent et les arbres s'affranchirent. Le printemps venu, Pécuchet se mit à la taille des poiriers. Il n'abattit pas les flèches, respecta les lambourdes, et s'obstinant à vouloir coucher d'équerre les duchesses qui devaient former les cordons unilatéraux, il les cassait ou les arrachait invariablement. Quant au péché, il s'embrouilla dans les surmères, les sous-mères et les deuxièmes sous-mères. Des vides et des pleins se présentaient toujours où il n'en fallait pas, et impossible d'obtenir sur l'espalier un rectangle parfait avec six branches à droite et six à gauche, dont compris les deux principales, le tout formant une belle arête de poisson. Bouvard tâcha de conduire les abricotiers. Ils se révoltèrent. Il abattit leur tronc à ras du sol, aucun ne repoussa. Les cerisiers auxquels il avait fait des entailles produisirent de la gomme. D'abord, ils taillèrent très long, ce qui éteignait les yeux de la base, puis trop court, ce qui amenait des gourmands. Et souvent, ils hésitaient, ne sachant pas distinguer les boutons à bois des boutons à fleurs. Ils s'étaient réjouis d'avoir des fleurs, mais ayant reconnu leur faute, ils en arrachaient les trois quarts pour fortifier le reste. Incessamment, ils parlaient de la sève et du cambium, du palissage, du cassage, de l'éborgnage. Ils avaient au milieu de leur salle à manger, dans un cadre, la liste de leurs élèves avec un numéro qui se répétait dans le jardin sur un petit morceau de bois au pied de l'arbre. Levé dès l'aube, il travaillait jusqu'à la nuit, le porte-jonc à la ceinture. Par les froides matinées de printemps, Bouvard gardait sa veste de tricot sous sa blouse, Pécuchet sa vieille redingote sous sa serpillière, et les gens qui passaient le long de la claire-voile les entendaient tousser dans le brouillard. Quelquefois, Pécuchet tirait de sa poche son manuel, il en étudiait un paragraphe, debout avec sa bêche auprès de lui, dans la pose du jardinier qui décorait le frontispice du livre. Cette ressemblance le flatta même beaucoup, il en conçut plus d'estime pour l'auteur. Bouvard était continuellement juché sur une haute échelle devant les pyramides. Un jour, il fut pris d'un étourdissement et, n'osant plus descendre, cria pour que Pécuchet vint à son secours. Enfin, des poires parurent, et le verger avait des prunes. Alors ils employèrent contre les oiseaux tous les artifices recommandés. Mais les fragments de glace miroitaient à éblouir, la cliquette du moulin à vent les réveillait pendant la nuit, et les moineaux perchaient sur le mannequin. Ils en firent un second et même un troisième, dont ils varièrent le costume inutilement. Cependant, ils pouvaient espérer quelquefois. Pécuchet venait d'en remettre la note à Bouvard, quand tout à coup le tonnerre retentit et la pluie tomba, une pluie lourde et violente. Le vent par intervalles secouait toute la surface de l'espalier et les tuteurs s'abattaient l'un après l'autre et les malheureuses quenouilles, en se balançant, entrechoquaient leurs poires. Pécuchet, surpris par l'averse, s'était réfugié dans la cahute. Bouvard se tenait dans la cuisine. Il voyait tourbillonner devant eux des éclats de bois, des branches, des ardoises, et les femmes de marins qui, sur la côte à 10 lieues de là, regardaient la mer, n'avaient pas l'œil plus tendu et le cœur plus serré. Puis, tout à coup, les supports et les barres des contre-espaliers s'abattirent avec le treillage sur les plates-bandes. Quel tableau! Quand ils firent leur inspection, les cerises et les prunes couvraient l'herbe entre les grêlons qui fondaient. Les passe-colmars étaient perdus, comme le baiser des vétérans et les triomphes de Jodoigne. À peine s'il restait parmi les pommes quelques bons papas. Et 12 tétons de Vénus, toute la récolte des pêches, roulait dans les flaques d'eau au bord des buis déracinés. Après le dîner, où ils mangèrent fort peu, Pécuchet dit avec douceur, « Nous ferions bien de voir à la ferme s'il n'est pas arrivé quelque chose. Bon, pour découvrir encore des sujets de tristesse. Peut-être, car nous ne sommes guère favorisés. » Et ils se plaignirent de la Providence et de la nature. Pouvard, le coude sur la table, poussait sa petite susurration. Et comme toutes les douleurs se tiennent, les anciens projets agricoles lui revinrent à la mémoire, particulièrement la féculerie et un nouveau genre de fromage. Pécuchet respirait bruyamment, et tout en se fourrant dans les narines des prises de tabac, il songeait que, si le sort l'avait voulu, il ferait maintenant partie d'une société d'agriculture, brillerait aux expositions, serait cité dans les journaux. Bouvard promena autour de lui des yeux chagrins. « Ma foi, j'ai envie de me débarrasser de tout cela pour nous établir autre part. »« Comme tu voudras, » dit Pécuchet. Et un moment après, « les auteurs nous recommandent de supprimer tout canal direct. La sève, par là, se trouve contrariée et l'arbre forcément en souffre. » Pour se bien porter, il faudrait qu'il n'eût pas de fruits. Cependant, ce qu'on ne taille et qu'on ne fume jamais, on produise de moins gros, c'est vrai, mais de plus savoureux. J'exige qu'on m'en donne la raison. Et non seulement chaque espèce réclame des soins particuliers, mais encore chaque individu, suivant le climat, la température, un tas de choses. Et où est la règle, alors? Et quel espoir avons-nous d'aucun succès ou bénéfice? Bouvard lui répondit. Tu verras, don Gasparin, que le bénéfice ne peut dépasser le dixième du capital. Donc on ferait mieux de placer ce capital dans une maison de banque. Au bout de 15 ans, par l'accumulation des intérêts, on aurait le double sans s'être foulé le tempérament. Pécuchet baissa la tête. L'arboriculture pourrait bien être une blague. Comme l'agronomie, répliqua Bouvard.